Chapitre 8e. La veille de son départ, la marquise alla se promener avec Guibray dans la lande où elle l'avait rencontré un soir. Comme ce soir-là, lorsqu'ils revinrent, il faisait tout à fait nuit. Lui était infiniment agacé de ce départ qui bouleversait son organisation de vie. Peu à peu aussi, il s'était attaché à cette femme simple, gaie et très meublante. Un peu plus, il allait, ma foi, l'aimer pour tout de bon. Elle, écrasée par un chagrin dont elle ne voulait pas laisser soupçonner la violence, marchait, silencieuse, attendant qu'il parlât, et s'énervait de le voir écouter si aucun pas ne sonnait sur la route, et si aucun froissement ne faisait bruire les haies. Les petites terreurs de Jean lui semblaient mesquines à elle qui l'eût embrassé devant le monde entier, plutôt que de ne pas l'embrasser du tout. Et elle allait le quitter. Le quitter sûrement pour 2 ou 3 mois, peut-être pour toujours. Elle l'aimait tant. Elle était si bien habituée à ses longues causeries sans abandon, mais pleines d'entrain, et à ses baisers, un peu distraits, mais très doux. Ah, comme elle comprenait bien à présent ce qu'autrefois elle déclarait enfantin ou ridicule. Elle se souvenait qu'en lisant un jour à son beau-père, qui aimait à l'entendre lire de sa voix grave les poètes latins, « Da mi basia mille dein de gentum » Dein mille altera, dein secunda centum, dein usque altera mille, dein decentum. Elle s'était écriée, riant comme toujours des choses sentimentales ou passionnées. Tant de baisers que ça, comme on comprend que lesbie en ait eu vite assez. Aujourd'hui, elle jugeait différemment. Elle eût voulu rester toujours blottie entre les bras de Jean, la joue appuyée contre son cœur, toute pénétrée de la chaleur des 1000 baisers qui tombraient sur ses cheveux. Et elle continuait à marcher sans dire un mot. Guibray s'arrêta, demandant « À quoi pensez-vous » Elle répondit « À vous ». Il posa ses mains sur les épaules de Liane et attirant son visage tout près du sien, il lui demanda la bouche sur sa bouche et les yeux dans ses yeux « Voyons, le croyez-vous que je vous aime assez ?» Elle murmura « Assez, c'est si peu. » Il reprit « Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. J'éprouve pour vous ce que je n'ai jamais éprouvé pour nul autre. Mais puisque vous ne le croyez pas, c'est que j'exprime probablement ce que je ressens moins bien que... » Elle l'interrompit brusquement, ne voulant pas entendre la fin de la phrase. Qu'est-ce qu'il allait dire? Moins bien que les autres, sans doute. Cette pensée, qu'il la jugeait mal, lui était odieuse, et cependant, elle ne voulait pas le détromper. 100 fois, elle avait été sur le point de lui crier qu'elle n'avait jamais été à personne, et toujours, elle arrêtait ce cri qui venait à ses lèvres. D'abord, elle se disait qu'il ne la croirait pas, et puis elle soupçonnait en Guibray un fond de snobisme, et elle sentait vaguement que sa situation de femme à la mode et ses aventures supposées étaient à ses yeux sa plus grande, sinon sa seule valeur. Une autre pensée l'inquiétait aussi. Elle craignait de paraître à Jean maladroite et naïve dans ses tendresses, alors qu'il s'attendait à trouver une femme savante et expérimentée. Il demanda encore, la tenant toujours serrée contre lui, « Dites-moi que vous croyez que je vous aime. » Elle répondit, « Non, je ne mens jamais, je vous aime, moi. Ça, j'en suis sûre, et ça me suffit. »« Eh bien, dites-moi au moins pourquoi vous m'aimez. Vous me l'avez déjà demandé. Je vous ai répondu que je n'en savais rien. Mais maintenant... » Maintenant, comme alors, je ne sais pas pourquoi je vous aime, mais je vous aime bien. Allez, vrai. » Et brusquement, elle ajouta, « Je veux vous parler d'une chose qui me préoccupe. Promettez-moi que vous ferez ce que je vais vous demander, mais... Oh, vous pouvez promettre. Ce n'est pas une chose importante pour vous. Eh bien, je promets. Voici. Je vous prie, quand vous vous marierez, de m'annoncer vous-même votre mariage avant qu'il soit connu. » Il se mit à rire. « Quelle drôle d'idée! Pourquoi voulez-vous cela ?»« Parce que je ne veux pas l'apprendre brusquement, au milieu d'un dîner, ou à des 5 heures quelconques. » Il réfléchit. « Mais ça ne sera pas agréable du tout pour moi de vous annoncer cette nouvelle. »« Qu'est-ce que cela peut vous faire? Je vous en prie. Ne me refusez pas la première chose que je vous demande. »« Eh bien, c'est convenu. » Après un silence, il ajouta, « Mais je ne vois pas ce que cela changera, que je me marie. »« Comment ?» balbutia Madame de Gueldre effarée et s'éloignant involontairement de Guibray. « Comment est-ce que cela changera? Mais tout ?»« Tout, d'abord tout, ce n'est pas grand-chose. Ensuite, je ne sais pas pourquoi mon mariage modifierait quoi que ce fût. »« Pourquoi ?» s'écria Liane. « parce que je trouve qu'être la maîtresse d'un homme marié, c'est faire une action ignoble.
Mais, cependant, le contraire, fit observer le vicomte,
le contraire a lieu couramment.
Eh bien, mais le contraire, c'est le contraire.
Un homme est de taille à se garer de ces accidents-là. Et si on lui prend sa femme, c'est qu'il n'a pas su la garder.
Aussi, voyez, on ne le plaint jamais, et presque toujours on se moque de lui.
Mais une femme, une jeune fille surtout.
Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, ignorante et maladroite, contre une femme souvent rouée et dans tous les cas plus expérimentée qu'elle? C'est une situation atroce et sans issue. Elle est condamnée à souffrir sans se plaindre, si elle est douce et résignée, ou à crier, et à faire du scandale, si sa nature ne lui permet pas de supporter les humiliations et les dégoûts.
Ah non, je ne serais jamais mêlé à ces vilainies-là.
Il demanda.
Mais si j'avais été marié quand vous m'avez connu,
je ne vous aurais pas aimé, ou du moins, je ne vous aurais pas revu.
De telle sorte, fit en riant le vicomte, que si demain je me mariais, vous ne me verriez plus,
jamais.
Il comprit qu'elle disait vrai et murmura.
Une drôle d'idée.
Liane restait pensive. Elle en voulait à M. de Guibray des sentiments qu'il venait d'exprimer avec une tranquillité parfaite.
Ainsi, il était décidé, en principe, à tromper la femme qu'il épouserait.
Certes, elle admettait qu'au bout d'un temps plus ou moins long, un mari trompât sa femme. Elle trouvait cela regrettable et logique. Mais qu'un homme, recevant dans ses bras une jeune fille candide et confiante, n'eût pas la pensée de rompre, au moins momentanément, avec son existence passée, cela lui paraissait malpropre et monstrueux.
Et regardant Jean comme si elle distinguait dans la nuit sa tête qu'elle connaissait si bien, cette tête au front têtu, à la mâchoire violente et au regard coupant, dès qu'il oubliait de se faire doux, elle se dit « Si sa femme l'aime, elle sera horriblement malheureuse. »
Pour la seconde fois, la voyant absorbée, Guibray demanda
« À quoi pensez-vous ? »
Elle répondit franchement
« Je pense que si votre femme vous aime, vous la rendrez très malheureuse. »
Elle devina qu'il souriait en répondant
« Eh bien, c'est très possible ce que vous dites là. »
« Voilà l'Angélus qui sonne !» s'écria la marquise. « Je vais être en retard !»«
Alors, c'est décidé, vous partez demain ?»«
Demain. »
Et suppliante, elle demanda.
« Je vous en prie, donnez-moi de vos nouvelles.
Je vous en donnerai. »«
Bientôt ?»«
Bientôt. »
Liane sentait en elle un affreux déchirement. Elle s'arracha brutalement des bras de Jean et partit en courant, lui criant
« Je vous aime. Adieu !»
Il répondit
« Au revoir !»
Elle fit non de la tête, et tandis qu'un grand sanglot la secouait toute, elle disparut dans la nuit.